les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Peut-être que l'un, Pierre Boileau, en dit trop, si l'on n'a pas lu Celle qui n'était plus, roman écrit avec Thomas Narcejac. Peut-être que l'autre, Henri-Georges Clouzot, en dit trop si l'on n'a pas vu Les Diaboliques, le film qu'il a tiré du roman cité plus haut. D'où ce conseil assez rare, si vous n'avez pas lu le roman ou si vous n'avez pas vu le film, eh bien soyez les plus inattentifs possibles à l'écoute, si l'on ose dire, de l'émission qui suit, Plein feu sur les spectacles du monde, de René Villemay, émission qui fut diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 5 août 1955.
Monsieur Pierre Boileau, il est indéniable que le point culminant des Diaboliques est la baignoire et que d'elle dépend ce qui précède et ce qui suit.
Exactement. C'est la baignoire qui a été notre point de départ. Je dois vous dire que notre roman, enfin celle qui n'était plus d'où Clouzot a tiré son film Les Diaboliques, a été conçu en deux temps très distincts. Narcejac et moi avions d'abord pensé à raconter l'histoire d'un crime parfait. Nos ambitions, si j'ose dire, s'arrêtaient là. Mais chemin faisant, nous nous sommes aperçus que ce point de départ nous menait à une impasse. En effet, ou bien nous nous limitions à cette histoire de crime parfait et dans ce cas, nous n'avions pas les éléments en somme suffisants pour écrire un roman, nous n'avions qu'une situation et tout s'arrêtait là. Ou bien nous faisions intervenir des éléments extérieurs, il y avait la faille dans la machination, nos coupables étaient démasqués ou arrêtés, mais dans ce cas-là, nous n'avions plus un crime parfait. À ce moment-là, nous avons reconsidéré la question, nous avons cherché à faire de ce point de départ un véritable roman policier, sans toutefois briser le cercle, c'est-à-dire sans sortir de notre cercle, de nos trois personnages, le coupable, sa complice et la victime. Et c'est alors que nous avons eu cette idée, et si le cadavre disparaissait? Et alors à ce moment-là, nous avons eu l'impression que nous tenions enfin notre sujet, nous avons commencé à le creuser et à reconsidérer entièrement notre histoire en fonction de ce nouvel incident capital. Et je dois dire que c'est à partir de ce moment-là que nous avons commencé à penser à Clouzot. Nous n'avions pas pensé à lui quand nous avons construit la mécanique du crime parfait, simplement. Mais nous avons pensé à lui à partir du moment où le cadavre disparaissait et où nous avions tout de même une espèce de situation assez insoutenable, un mystère qui nous a paru tout de même d'une densité assez grande et enfin des personnages qui étaient véritablement démoniaques. Et à partir de cet instant, je dois dire que, sans travailler pour Clouzot, nous avons été un peu influencés par l'idée du film qu'il pourrait réaliser. Et nous avons, en quelque sorte, raffiné sur certains épisodes.
Avez-vous été surpris, déçu, ou au contraire stimulé par, en somme, cet angle neuf que Clouzot vous présentait?
Eh bien, nous n'avons été, Narcejac et moi, nullement déçus. Je dois dire simplement que nous avons été surpris, mais que notre surprise n'a pas duré très longtemps et qu'elle a disparu quand nous avons reconsidéré toutes les difficultés devant lesquelles Clouzot s'était trouvé lorsqu'il lui avait fallu adapter notre roman à l'écran. Je crois même que là, c'est une faute qu'on commise beaucoup de critiques en faisant de gros reproches aux moyens employés par Clouzot. Je crois qu'ils se sont placés trop dans l'absolu et qu'ils n'ont pas tenu assez compte du roman, c'est-à-dire de la base qui servait de point de départ et de tremplin à Clouzot.
Est-ce que vous pensez que, jusqu'à un certain point, votre livre a été sauvé par le fait qu'il y avait un noyau très précis et très important, le crime conçu comme vous l'avez conçu.
Je le crois, et c'est justement là où j'allais en arriver, n'est-ce pas? C'est que nous avions une armature, une mécanique extrêmement précise et extrêmement rigide, et qui a en quelque sorte, je ne dirais pas limité, mais qui a bridé, si l'on veut, Clouzot, et qui lui a obligé à s'en tenir essentiellement à la structure du roman. Il a improvisé, dirons-nous, dans ce qui était extérieur, mais il a exactement respecté l'intrigue que nous avions construite. Et c'est justement parce qu'il a dû la respecter, mais qu'il devait la transposer sous une forme tout à fait différente, qu'il a été obligé de choisir, et qu'il a choisi cet aspect un peu grand-guignolesque. Je reviens à ce mot, mais je crois qu'il s'impose, c'est celui qui a été employé le plus souvent. De ce drame interne et subjectif, il lui a fallu faire quelque chose de valable et de compréhensible pour des millions de spectateurs. Il a donc eu recours à des effets qui ont paru à certains peut-être assez grossiers, mais qui me paraissent à moi et qui nous ont paru à Narcejac et à moi indispensables si l'on voulait respecter exactement la structure de notre roman, celle qui n'était plus.
Monsieur Henri-Georges Clouzot, certains des moyens que le cinéma met à la disposition des auteurs de films sont parmi les plus propres à inspirer la terreur. Est-ce votre premier contact avec le monde de la terreur que celui qui a donné naissance au diabolique?
Je crois que mon premier contact avec le monde de la terreur, ça a été le monde tout court. Je crois que nous avons été servis depuis quelque temps.
Oui, mais en votre qualité d'auteur de film, ce sont les diaboliques qui vous ont mis en rapport avec ce monde de la terreur dont nous parlions.
C'est-à-dire avec un monde de la terreur plus spécifiquement formel. Mais je crois que le monde du corbeau, par exemple, représentait un monde au moins aussi horrible.
Pensiez-vous depuis longtemps traiter un sujet tel que les diaboliques?
Absolument
ou à la
pas.
Suite
Absolument pas. La preuve, c'est que j'ai écrit 3 scénarios avant de décider de tourner celui-là. Je pourrais même dire 6 scénarios, puisque en fin de compte, j'ai écrit 3 scénarios des diaboliques successifs, que j'ai déchirés ou que j'ai recommencé. J'ai un défaut épouvantable, je ne peux pas raturer. Le fait de raturer m'exaspère, je me crispe et je ne sais plus quoi dire. Je n'ai pas tellement la terreur du papier blanc que la terreur de la rature. Et je dois dire que j'ai même ça en tournant. Par exemple, dans Les Diaboliques, j'ai recommencé des séquences entières parce qu'il y avait une fenêtre dont les persiennes auraient dû être fermées qui était restée ouverte. Et j'ai traité la pellicule exactement comme j'aurais traité du papier blanc, c'est-à-dire que j'ai touché à la corbeille et j'ai recommencé la séquence.
Le fait que vous ayez bien voulu nous dire que vous avez traité à 3 reprises différentes le sujet des diaboliques nous incite à vous demander dans quelle mesure le même prétexte, en l'occurrence ici le roman de Boileau et Narcejacques, oui, aurait pu donner naissance, suivant la personnalité de la personne qui s'en empare, à des résultats
écoutez,
complètement différents.
Évidemment qu'il y a une infinité de façons de traiter une équation, vous comprenez. Vous avez le roman de Boileau et Narcejacques est extrêmement intéressant dans la mesure justement où il offre à la cristallisation ou au cristallisateur une équation. Mais à partir du moment où vous avez des petites lettres, vous avez petit a plus petit b égale c, vous comprenez, vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur de a, b et c, et c'est ça qui est amusant. En lisant le bouquin, plus exactement quand ma femme qui venait de le lire me l'a passé, je me suis immédiatement accroché, non pas tellement au personnage, et la preuve c'est que j'ai changé les sexes, que j'ai tout changé, mais au problème abstrait d'abord qui m'a amusé, et aussi aux possibilités d'expression plastique que ça offrait. Il y a très longtemps que je cherche une solution pour donner au cinéma le relief du dessin, c'est-à-dire supprimer dans chaque image tout ce que je considère comme inutile, et malheureusement je n'y suis pas parvenu, mais je m'y efforce à chaque instant, et derrière chaque problème on en trouve une autre. C'est-à-dire que, par exemple, quand un personnage se présente devant la caméra, il est extrêmement désagréable d'être obligé de tenir compte du tissu de son costume, vous comprenez, et puis du papier à fleurs qui est derrière lui, et il est très difficile de réduire des volumes, puis des surfaces à des lignes. Les diaboliques m'ont amusé dans la mesure justement où j'ai pu à plusieurs reprises faire cette expérience et que le spectateur subit sans la comprendre d'ailleurs.
Vous êtes, monsieur Henri-Georges Clouzot, un exemple en France d'auteur de films complet, alors que dans certains pays, je pense à l'Amérique en particulier, certains réalisateurs n'effectuent leur part véritable du travail que sur le plateau. Chez vous, la part de la création est-elle plus importante sur le papier ou sur le plateau?
C'est exactement la même chose. Je pense qu'un film vit à partir du moment où on a décidé, ou plus exactement, où les événements ont décidé pour vous que vous alliez le tourner. Si vous partez d'une idée et que vous sentiez tout de suite quelque chose qui pousse, qui germe, qui pousse, évidemment qu'à partir de ce moment-là, si vous êtes de bonne foi, vous ne pouvez plus sincèrement contrôler ce qui va pousser. Il y a un mot merveilleux de Paul Klee, je crois que c'est lui qui a dit ça, parlant de l'artiste qui est un peintre chez lui et du spectateur, il dit, on nous demande, l'artiste est comme un arbre, il plonge ses racines dans la terre, et ce qu'il absorbe et ce qu'il répand dans ses feuilles, c'est ce qu'il a pris dans la terre. Mais vous ne pouvez pas demander à l'arbre d'avoir des feuilles en forme de racines. Je trouve que c'est une histoire merveilleuse, vous comprenez, et qui exprime tout à fait ce que nous sentons tous si nous sommes honnêtes vis-à-vis de nous-mêmes. C'est-à-dire que nous partons de quelque chose, les choses poussent comme elles peuvent, nous admettons de temps en temps de forcer une branche à gauche ou à droite. De toute façon, nous ne pouvons pas contrôler consciemment et directement ce que nous faisons, ou à partir de ce moment-là, ça devient sec, et à mon avis, ça perd beaucoup de sa valeur.
Vous avez fait à 2 reprises au moins allusion à la peinture. Vous-même êtes peintre. Croyez-vous que cette discipline, la peinture, vous aide dans une certaine mesure.
Oui, mais pas plus que les mathématiques ou que le bridge, vous comprenez.
C'est-à-dire
que toutes les disciplines, les disciplines sont importantes. Je crois que nous sommes tous ambivalents, vous comprenez. À partir du moment où on a quelque chose à dire, ce qu'on a à dire s'exprime avec tous les moyens d'expression qu'on met à notre disposition. Et il est bien certain qu'à partir du moment où dans la peinture, on s'oblige à une discipline plastique, c'est utile à l'écran. Mais je peux dire que j'ai commencé il y a très peu de temps à dessiner. Vous savez, j'ai commencé il y a 2 ans. Et au fond, si j'ai senti tout de suite des possibilités dans le dessin, c'est parce que j'avais dessiné toute ma vie avec une caméra. Les problèmes de rapport, de surface ou de ligne, qui sont les vrais rapports, les profonds rapports de la peinture, sont exactement les mêmes dans les deux métiers.
Est-ce que dans un film comme Les Diaboliques, étant donné que vous l'avez conçu, que vous l'avez retravaillé, vous éprouvez à un degré moindre les réactions que vous avez pu observer chez les spectateurs, en tant que spectateur vous-même?
Moi, personnellement, j'ai eu ce choc de spectateur il y a un an, vous comprenez. Le vrai rôle du metteur en scène, c'est d'être le spectateur numéro un, et de contrôler lui-même ce qu'il a projeté au plafond de sa chambre quand il le voit sur l'écran et de voir si ça coïncide ou si ça ne coïncide pas. Après ça, c'est fini. Évidemment qu'on ne peut plus avoir le plaisir de la surprise quand on voit son film sur l'écran parce qu'il a poussé avec nous. C'est exactement l'histoire des gens qui se voient tous les jours. Ils ne se voient pas vieillir. Nous ne voyons pas mûrir notre film.
Concevez-vous de vous exprimer autrement que par le cinéma, comme vous l'aviez fait avant dans le théâtre, comme vous le ferez peut-être demain dans la télévision?
Mais évidemment. Moi, je veux dire que j'ai un triste caractère, je me fous de la postérité. C'est-à-dire que les moyens d'expression qui m'intéressent, ce sont les moyens d'expression qui me permettent de communiquer avec des hommes de mon temps.
Oui.
Par conséquent, j'ai fait de la radio, j'ai écrit, je dessine, et je serai très très content un jour de faire de la télévision si mes moyens me le permettent, mais en ce moment ils ne me le permettent pas.
Peut-on vous demander où se situe, selon vous, dans ce que vous projetez pour le futur immédiat, Les Diaboliques? Quelle étape marque ce film?
Pour le moment, c'est un terminus.
C'est un terminus, mais ce terminus annonce-t-il une autre étape?
C'est-à-dire que les problèmes qui m'intéressent en ce moment sont des problèmes de couleur.
Oui.
J'ai très envie de tourner un film en couleur, et je crois que je choisirai le sujet par rapport à la palette que j'aurais pu réussir à imposer à la caméra, ce qui n'est pas facile.
Vous vous étiez laissé séduire, je crois, à un moment donné, par ce que posait l'écran large.
Oui, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que, plus exactement, j'avais écrit... un des trois scénarios que j'ai écrit en dehors des trois scénarios des Diaboliques, c'est le scénario sur les postes de radio amateurs. Et c'est un scénario qui s'appelait La mer et le ciel. Et si je l'ai abandonné, en tout cas temporairement, c'est parce que les rares expériences que j'ai pu réussir dans le domaine de la couleur ont toujours eu lieu au studio. C'est-à-dire qu'au studio, il est encore possible de dominer dans une certaine mesure la couleur. Mais en extérieur, c'est absolument impossible, parce que vous ne pouvez pas repeindre la mer et vous ne pouvez pas l'éclairer non plus avec des projecteurs colorés. Par conséquent, vous n'êtes pas maître de la couleur, vous êtes obligé d'accepter celle que vous offre, je ne dis pas la nature, mais le système de chromo qu'on met à votre disposition, et ça, je m'y refuse.
Dernière question, Monsieur Clouzot, pour terminer cet entretien. Plusieurs de vos films ont été des succès transcendants. Parlons du salaire et parlons des Diaboliques. Les réactions que vous avez pu observer pour ces deux films dans le public ont-elles été ce que vous en attendiez?
Exactement, sauf que je dois dire que l'ampleur des réactions à propos des Diaboliques me surprend un peu. J'ai voulu faire un film policier, un film divertissant. Je me suis beaucoup amusé à le faire et je me suis surtout intéressé à des problèmes formels. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'on y trouve des problèmes d'éthique.
Thank you.
C'était Plein feu sur les spectacles du monde par René Villemay, qui recevait Pierre Boileau et Henri-Georges Clouzot le 5 août 1955 sur la chaîne nationale. Émission que vous pourrez réécouter en ligne ou télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.